Radio Classique.
Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons suivre avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric Dabi est le directeur général de l'IFOP, directeur général d'opinion de l'IFOP, et nous allons évoquer bien sûr avec lui la situation politique française au lendemain de la constitution définitive, cette fois du nouveau gouvernement, fort de 35 membres. Et puis, à l'approche des élections européennes, on va commencer évidemment à s'intéresser aux élections européennes, le tout parsemé de sondages d'intention de vote présidentielle déjà, c'est pour 2027, mais on commence déjà à sonder sur ce sujet, et avec une sorte de rendez-vous régulier qui, à chaque fois, nous montre une progression du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Donc, ça tombe bien, nous avons Frédéric avec nous aujourd'hui, et je voudrais peut-être partir d'entrée de jeu sur ce qui a fait l'événement, malgré tout, c'est-à-dire un sondage de l'IFOP, je crois, pour Valeurs Actuelles qui est, j'allais dire, presque l'organe central du Rassemblement National, mais néanmoins qui établit un niveau absolument record de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, qu'il situe à 36%. C'est un score quasiment mitterrandien pour Marine Le Pen pour le moment. Et je voulais aussi d'abord insister aussi auprès de vous, Frédéric Dabi, sur quelques éclaircissements, parce que la presse, quand elle restitue ce sondage, elle parle surtout du second tour. Et elle donne donc Marine Le Pen gagnante ou faisant jeu égal. Alors gagnante face à Gabriel Attal, je crois, faisant jeu égal avec Édouard Philippe. Mais est-ce que ça a vraiment un sens de donner des indications sur un second tour parfaitement hypothétique? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas tout simplement se concentrer sur les intentions de vote de premier tour, Frédéric Dabi?
Oui, vous avez parfaitement raison, Jean-Marie, et comme vous, je déplore le traitement médiatique. Il y a eu des progrès à une époque, l'AFP, l'Agence France-Presse, titrait également sur les seconds tours. Maintenant, un travail de pédagogie a été fait notamment par des instituts et par des journalistes qui connaissent les enquêtes, et l'AFP met en avant plutôt le premier tour. C'est vrai que ce second tour n'a aucune importance, parce que quand nous interrogeons les Français au premier tour, nous les mettons dans une situation de vote, dans une situation de projection vers 2027. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour d'une présidentielle, pour qui voteriez-vous? Pour un second tour, naturellement, il manque un ingrédient fondamental. La campagne du premier tour qui vient de se dérouler et la connaissance des résultats premier tour. Par exemple, en 2007, le score hallucinant de Nicolas Sarkozy, 31%, avait créé une dynamique irrésistible. Et c'est vrai que le score de premier tour est suffisamment spectaculaire et inédit. Mitterrandien, oui, 36%, c'est entre le Mitterrand de 74 qui avait fait autour de 40, mais qui avait perdu au second tour, et surtout le Mitterrand de 1988, post-cohabitation, qui était à 34%. Jamais Marine Le Pen ou un candidat du FNRN a eu un tel score à 3 ans d'une élection présidentielle. Je répète également le statut de ce sondage. Il nous apprend plus sur la situation politique actuelle que sur celle qui prévaudra en 2027. Il y a eu des élections et des pré-campagnes présidentielles où tout était figé 2 à 3 ans avant. Aucun sondage qui donne Nicolas Sarkozy perdant entre 2004 et 2007. Aucune enquête, vous vous en souvenez, qui donne un François Mitterrand battu dès 1986. Mais ce qui est intéressant, c'est ce 36%. C'est ce vote désormais que j'ai qualifié d'attrape-tout. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de catégories où l'URN est très faible. Un petit peu les cadres supérieurs, un tout petit peu les diplômés de l'enseignement supérieur. Mais en dehors de ça, il y a très peu de différence en termes de genre, très peu de différence générationnelle dans l'enquête, 31% auprès des personnes âgées. On sait très bien que ça a été longtemps une terre inconnue pour le Rassemblement National. Et puis surtout, et là je me mouille dans le sens où je pense que 2027 sera aussi une bataille pour la France du travail, une bataille des classes moyennes, une bataille du salariat. Marine Le Pen qui dépasse 40% chez les salariés français. Là est plus l'événement que un hypothétique second tour, en plus avec un 50-50 ou un 51-49 qui ne veulent absolument rien dire. Le second tour donne un élément intéressant, c'est dans l'hypothèse qui n'est pas contenue dans le premier tour d'un second tour Mélenchon-Le Pen, le vote d'élimination ne se produit pas au détriment de Marine Le Pen, mais au détriment du fondateur de la France Insoumise.
Alors, juste un mot encore sur ce chiffre de 36%. Basiquement, et peut-être de façon trop simpliste, je l'attribue au fait que l'électorat LR glisse maintenant vers Marine Le Pen. Pourquoi ? Me semble-t-il parce que LR s'est aligné sur les positions du RN et parce que il y a même une surenchère de la part des élus RR, les Républicains, qui les conduit presque à pousser souvent le bouchon beaucoup plus loin que le Rassemblement National, et donc une sorte de radicalisation qui fait de LR le parti le plus virulent contre Emmanuel Macron, et donc qui font fausse route de ce point de vue-là, parce que au lieu d'essayer de s'organiser et d'organiser au fond le noyau central de la société, mais ce qui supposerait un rapprochement avec les macronistes, ils font l'inverse, et donc ils nourrissent le Front National, et on aboutit à ces 36%. Alors, est-ce que c'est une vue trop simple et trop simpliste, Frédéric Dabi, ou est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que je viens d'exposer ?
Il y a une part de vérité, mais quand on atteint 36%, ce n'est pas une mono-explication, c'est beaucoup plus large. Déjà, bon, ça ne se fait pas d'additionner des scores de candidats, mais le 36% de Marine Le Pen ne conduit pas, par exemple, à un effondrement du score d'Éric Zemmour, qui a été testé. On ne sait pas s'il sera candidat en 2027, mais l'addition des intentions de vote Le Pen, Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, qui en 2017 avait appelé à voter au second tour pour Marine Le Pen, fait 44,5%. Là aussi, c'est complètement inédit. C'est vrai qu'il y a un problème d'espace et de positionnement pour LR, où se trouve la droite, elle est partout, elle est nulle part. Elle est un peu chez LR, Laurent Wauquiez fait autour de 5%. Elle est chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire dans le bloc central, hein, que ce soit Gabriel Attal ou Édouard Philippe, il draine de l'électorat de droite. Et il y a un électorat de droite qui est au Rassemblement National. Mais je pense qu'il y a cet aspect de tectonique des plaques politiques. Il y a un contexte particulier, un contexte politique, même historique. Beaucoup de Français, dans nos enquêtes, considèrent que, dans nos enquêtes qualitatives, où ils s'expriment spontanément, que c'est son tour, que pourquoi pas elle ? On n'a jamais essayé le Rassemblement National. Nicolas Sarkozy nous a déçus, François Hollande nous a déçus encore plus. Emmanuel Macron, cette fin de règne de début de second quinquennat paraît interminable. Tous ces éléments bénéficient à Marine Le Pen. Il y a d'autres éléments. Le fait que maintenant le personnage repoussoir absolu dans le champ politique n'est plus situé au Front National ou au RN, c'est Jean-Luc Mélenchon chez LFI, qui a le plus grand nombre de mauvaises opinions dans le baromètre IFOP Fiducial pour Paris Match. Il y a aussi le fait que Marine Le Pen a pour la première fois un numéro 2 en la personne de Jordan Bardella qui la protège, qui rentre, qui ferraille dans le champ politique et lui permet de prendre du champ et de sculpter sa stature présidentielle. Mais je le répète, ce sondage, comme tous les sondages électoraux, n'est pas prédictif des résultats du vote. Beaucoup de choses peuvent se passer. Pourquoi pas une dimension judiciaire, hein. On a vu cette semaine la fin du procès des anciens parlementaires du Modem. Beaucoup ont été condamnés. François Bayrou a été relaxé, mais le parquet a fait appel. Il y a, à la fin de l'année, un procès qui va toucher Marine Le Pen. Donc, il y a toute une série d'inconnus. Mais en tout cas, ici et maintenant, ce qui frappe, c'est que pour une partie de plus importante et croissante des Français, Marine Le Pen et le RN incarnent non pas cette fonction tribunicienne qu'on attribue au Parti communiste, mais l'alternative.
Jean-Claude Casanova.
Ce qui me frappe, premièrement, elle a désormais un électorat qui a un degré d'hétérogénéité, qui est un vrai électorat. C'est-à-dire que elle a un électorat de classe supérieure et de classe éduquée, un électorat de classe populaire. Elle a le plus grand électorat populaire est désormais derrière Marine Le Pen, mais elle a un électorat qualifié, désormais équivalent à ce qu'était autrefois l'électorat de la droite classique. Et puis surtout, l'intensité contre elle a énormément diminué. Elle se projette en partie sur Mélenchon à cause de son style, puis Mélenchon est devenu le parti de l'immigration, explicitement, d'une certaine façon, en accentuant, d'ailleurs, ça a joué dans le conflit en Palestine, en accentuant son côté pro-palestinien, on ne peut pas l'interpréter autrement que de cette façon. Et donc, si Marine Le Pen est au second tour, elle devient un candidat extrêmement difficile à battre aujourd'hui.
Frédéric Dabi, on évoquait rapidement la situation de DLR et de la droite classique. On sait, en vue de cette élection présidentielle, que s'il n'y aura qu'une seule place, je veux dire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une forme d'alliance entre ceux qui se réclament du centre droit, ceux qui se réclament du centre gauche et ceux qui se réclament de la droite classique, s'il n'y a pas une alliance entre ces trois tendances-là, ben il y aura dispersion. Et la dispersion veut dire ben, il y aura dispersion en face d'un bloc qui est le bloc qu'incarne Marine Le Pen. Donc, ces acteurs-là n'en sortiront pas, Frédéric Dabi.
Oui, je partage complètement votre point de vue. Hein. Qu'est-ce qu'on voit depuis 2022, voire avant? C'est une guerre des trois blocs. Un bloc de gauche extrêmement fracturé, hein, lui-même fracturé en trois. Hein. Le bloc LFI, canal historique pro-Mélenchon, qui est dominant. 14% dans notre enquête d'intention de vote pour Valeurs Actuelles. Un bloc social-démocrate anti-LFI avec des individualités populaires, mais une difficulté à trouver un espace. Et puis un bloc de gauche NUPES qui veut faire sans Jean-Luc Mélenchon. Donc, à côté de ce bloc de gauche, il y a le bloc RN Reconquête qui est extrêmement solide et puissant. Hein. J'ai donné ces 44,5% de l'addition Le Pen, Dupont-Aignan et Zemmour. Et il y a un bloc central. Où est LR? Est-ce qu'LR n'est pas condamné de rejoindre ce bloc central pour peut-être en prendre les commandes? Est-ce que c'est le pari d'un Xavier Bertrand qui s'est redéclaré candidat, peut-être de manière prématurée, mais en tout cas il prend date et ce n'est pas une mauvaise idée de montrer qu'il, dans un contexte où un électorat de droite déçu d'Emmanuel Macron, il y en a qui ne trouve pas pour l'instant son choix dans le bloc central, dans les candidats ou les prétendants du bloc central. En tout cas, c'est vrai que le bloc le plus homogène, le plus attrape-tout, je reprends ce qu'a dit Jean-Claude Casanova sur son hétérogénéité sociologique qui est extrêmement inédite. Hein. Où est le jean-marisme, hein? Où est un électorat FN du passé qui était uniquement masculin, jeune, ouvrier et sans diplôme? Il est toujours là. Il est même majoritaire chez les ouvriers, mais il s'est énormément élargi. Donc, face à ce bloc très compact, les deux autres blocs ont intérêt à s'organiser parce que il y a trois blocs, mais il n'y a que deux places pour un second tour.
Jean-Claude Casanova.
Le bloc central n'a pas de procédure et n'a pas de véritable organisation politique. Il a une structure de parti extrêmement faible. Le parti macroniste n'est pas un vrai parti. On sent bien la faiblesse, les difficultés internes. Et puis, il y a quatre ou cinq candidats qui sont sur la ligne de départ. On sent bien ceux qui attendent pour s'annoncer, ceux qui sont déjà annoncés, comme Philippe, et ceux qui seront peut-être candidats comme Castex, mais on ne le sait pas. Et donc, il y a une incertitude qui est, à mon avis, très dommageable, parce que l'incertitude dans le bloc central favorise la popularité sur la droite, si vous voulez, de Marine Le Pen. Et on voit bien ce qui est aujourd'hui dans l'électorat, c'est-à-dire, après tout, pourquoi pas? Et d'autant qu'on constate le même phénomène dans toute l'Europe et on constate le même phénomène aux États-Unis. Personne, il y a 5 ou 6 ans, ne pensait que Trump pourrait être réélu. Or, aujourd'hui, la probabilité de Trump devient énorme. Et en Europe, il y a le même problème. Les partis traditionnels sont partout menacés. Et donc, de mon point de vue, c'est extrêmement grave pour l'avenir de l'Europe, compte tenu de ce qui est aujourd'hui la Russie.
Et de ce que l'on appelait, pendant longtemps le bloc occidental ou le monde occidental. Je veux dire, c'est cela qui est en péril, de fait, avec une éventuelle réélection de Donald Trump.
Vous additionnez une réélection de Donald Trump, une élection de Marine Le Pen et des convulsions européennes, la situation sera extrêmement difficile à gérer. Et je ne vois pas de grandes personnalités historiques émerger en Europe.
Et ce qui est frappant aussi, c'est que, justement, alors pour le moment, on peut égrener des noms, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Xavier Bertrand, et ainsi de suite, mais il n'y a pas du tout d'incarnation de ce qui pourrait être une alternative à ce qui est aujourd'hui perçu comme l'alternative, précisément, c'est-à-dire le bloc Front National, Rassemblement National.
Oui, elle peut se construire, hein, cette alternative. On peut citer aussi Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, bien sûr, qui est le premier ministre de Bercy, si je puis dire, depuis maintenant 7 ans et qui a une forte crédibilité, une forte popularité. Il y a effectivement Gabriel Attal qui sans connaître un état de grâce, bénéficie d'un crédit de confiance avec des mots utilisés à son encontre par les Français que je n'ai pas vu pour un homme politique depuis des années et des années. Hein. Efficacité, sérieux, proximité, il va sur le terrain avec sa méthode. Je ne vais pas parler de la méthode Rocard, mais une méthode qui commence à être comprise par les Français, faire des constats, ne pas être dans le déni et apporter des solutions. Il a, même si cette crise peut revenir comme un spectre pendant cette campagne européenne, là, il a réussi à déminer une crise qui paraissait profonde du côté du monde agricole. Je le répète, cette crise n'est pas finie, mais c'est quelqu'un qui sait faire et qui bénéficie de ce crédit de confiance. Mais en tout cas, clairement, et c'est pour ça que ce remaniement sans fin n'a suscité aucun intérêt chez les Français qui sont sur une logique.
Ça a même entaché l'image donnée par l'arrivée de Gabriel Attal.
Vous avez raison, parce que les Français sont sur une logique de résultat, pas sur une logique de casting, et ils ont eu le sentiment que l'État s'arrêtait pendant plusieurs semaines. Et effectivement, les Français attendent des résultats. La manière de contrecarrer la dynamique Marine Le Pen, c'est de moins en moins les arguments moraux. Ça peut jouer entre les deux tours dans la logique d'élimination, hein, celle qu'avait popularisé Guy Mollet, qu'avait reprise dans les années 90 Charles Pasqua. Au second tour, on élimine, au premier tour, on choisit. Mais c'est d'abord l'idée que le vote RN serait un vote dangereux, que Marine Le Pen au pouvoir serait catastrophique pour le pays, et que les gens vivent mieux depuis maintenant quelques années, qui pourrait, je dirais, limiter cette dynamique qui semble quand même, je le répète, hein, 33% il y a à peine 3 semaines, 29% à la rentrée dernière, qui semble irrésistible.
Pour rester sur la dangerosité éventuelle d'une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, si on regarde l'actualité telle qu'elle est, la vie du monde telle qu'elle est, on s'aperçoit que les dangers sont évidemment à leur maximum. Il y a la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, il y a la situation au Proche-Orient, il y a les ambitions de la Chine, et donc il y a à chaque fois, se pose une question existentielle pour les Européens eux-mêmes. Or, quand on regarde Marine Le Pen, son positionnement, elle n'est pas du tout semblable au positionnement de Madame Meloni, par exemple. Elle s'aligne sur les gens les plus radicaux, les plus anti-européens, anti-OTAN qui existent en Europe, notamment la Ligue de Matteo Salvini. Et donc, c'est exactement à contresens, y compris dans ses liens avec Vladimir Poutine, à contresens de ce qu'exigerait et de ce qu'exige la situation internationale. Et manifestement, la situation internationale ne pèse absolument pas ne fait pas partie des déterminants du vote, Frédéric Dabi.
Alors, j'entends ce que vous dites et c'est plutôt vrai, mais les choses bougent. Déjà, je suis frappé de voir à quel point l'international intéresse désormais les Français. L'époque où l'actualité du monde était surtout retenue par un électorat âgé, surdiplômé, urbain et absolument révolu. Les Français ont compris et c'est une logique d'opinion qui a changé. Avant, on disait ce qui imprime, c'est ce qui est proche de moi et qui a des effets sur ma vie. Et justement, les Français ont pris conscience que l'international avait des effets sur leur vie. Une migration comme celle des réfugiés syriens ou irakiens en 2015, un choc climatique au fin fond de la Terre, une guerre en Ukraine qui a des effets sur le prix du gaz et de l'électricité, tout ça fait que les Français s'intéressent fortement à l'actualité internationale. Je le vois dans notre question mensuelle pour Paris Match et IFOP Fiducial qui s'appelle « Les conversations des Français », où on voit que l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, est retenue par les Français. De là à en faire l'argument majeur de vote, bien sûr, non. Et c'est aussi un défi pour Marine Le Pen, plutôt fragile sur ces questions-là par rapport à d'éventuels adversaires, mais elle n'aura pas un président sortant en 2027, elle n'aura pas quelqu'un rompu aux questions internationales face à elle.
Oui, parce que si on regarde votre sondage, j'ai fait l'addition des listes anti-européennes, ils sont pratiquement à la majorité. Mais l'anti-européisme d'aujourd'hui a d'une certaine façon reculé sur deux points. Il a reculé sur l'euro à cause de la crise grecque. Je crois que En gros, si vous voulez, les anti-européens en France, y compris principalement Marine Le Pen et sans doute aussi Zemmour, acceptent l'euro. Et ils ont reculé sur l'idée de l'équivalent du Brexit. C'est-à-dire l'idée de la sortie, l'idée de la rupture complète n'est pas présente. En revanche, ils conduiront une politique, s'ils arrivent au pouvoir, si la droite radicale arrive au pouvoir, ils conduiront une politique qui affaiblira relativement la France. Parce que la France est un peu au-dessus des pays méditerranéens, mais elle est fondamentalement vulnérable par rapport à l'ensemble germanique, Autriche, pays du Nord, Pays-Bas, etc. La France est vulnérable tout simplement parce qu'elle est trop endettée et qu'elle a un déficit du commerce extérieur énorme. Donc, les projecteurs sur un gouvernement français incertain dans sa politique économique et fondamentalement démagogique feront que la France sera un peu dans une situation de la Grèce avec l'extrême droite au pouvoir. Donc elle aura le FMI sur le dos, toute une série de difficultés. Et évidemment, on peut faire le parallèle avec François Mitterrand. François Mitterrand est d'une certaine façon l'équivalent de Marine Le Pen, en ce sens qu'il avait accepté le programme commun, c'est-à-dire le gouvernement avec les communistes et une vague massive de nationalisation et la retraite et l'abaissement de l'âge de la retraite. Si on se souvient très exactement de Mitterrand en 81-83, en radicalisme extrême, ce n'est pas très différent de Marine Le Pen. Il a fallu 3 ans pour que...
Marine Le Pen a aujourd'hui le programme de la CGT.
La preuve, c'est que toutes les décisions prises par Mitterrand en 81 ont été annulées historiquement. Donc elles ont été inutiles et incertaines.
Sauf la 5e semaine de congés payés quand
oui,
même.
Toutes.
Et d'autres, et 39 heures. Alors, ce que dit Jean-Claude est extrêmement intéressant quand vous additionnez les listes anti-européennes. Oui, elles sont anti-européennes, mais je trouve que la tonalité de leur discours, et vous l'avez dit, hein, pour les raisons que vous avez avancées, est beaucoup moins anti-européen. En 2019, aux dernières élections européennes, Trump était au pouvoir. Le Brexit était là. Les enquêtes qui valaient ce qu'elles valaient, mais d'intention d'un Frexit, c'est-à-dire un Brexit à la française, atteignait quasiment 40% de oui. On repose cette question, on est à peine à 15 ou 20%. L'Europe est beaucoup plus incarnée que par le passé. Les Français ont vu à travers le Covid.
Et puis la catastrophe qu'a été le Brexit.
Oui, voilà, et voilà le contre-modèle. Les Français ont vu à travers le Covid et l'Ukraine que l'Europe existait. D'ailleurs, il y a un chiffre absolument incroyable qui est sorti au printemps, plutôt en juin dernier, de mes confrères et amis de Vérian, hein, le nouveau nom de Kantar, la Sofresse, où on voit que l'enquête européenne pour l'ensemble des Européens, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, la Commission européenne auprès des Français a plus de bonnes que de mauvaises opinions. Alors, c'est relatif, on est loin des 50%, mais ça veut dire que le regard des Français sur l'Europe change. Il peut être critique. On a vu pendant la crise agricole, l'antienne, c'est la faute de Bruxelles et de l'Europe. Mais malgré tout, je dirais que l'Europe s'installe et un discours anti-européen radical a beaucoup moins de succès que par le passé.
Oui, les paysans, on veut bien critiquer l'Europe, mais on veut surtout pas en sortir parce que sans la PAC, évidemment, on n'existe plus. Mais juste un mot pour terminer, parce que cette conversation va s'achever, hélas. Si on reprend le point de départ d'Emmanuel Macron, il veut être celui qui a bouleversé le paysage politique et qui a débarrassé, en quelque sorte, les Français des partis traditionnels qui sont censés être des partis sclérosés, etc. Donc, exit le Parti Socialiste, c'est principalement le PS qui s'est suicidé d'ailleurs, mais bon, et exit maintenant LR, les Républicains, qui aussi sont sur la voie du suicide tranquillement. Et tout cela peut aboutir en guise de refondation du paysage politique français à la domination du Rassemblement National. J'allais dire tout ça pour ça, Frédéric Dabi. Est-ce que c'est ça qu'on peut avoir comme lecture, au fond, de 2 mandats d'Emmanuel Macron ?
C'est vrai que pour lui, la question de sa sortie va revêtir une importance de plus en plus forte. Est-ce qu'il va être un Obama à la française qui va donner les clés de l'Élysée à Marine Le Pen comme Obama les a donné à Donald Trump, ce qui a quand même entaché la fin de son mandat et opéré une relecture beaucoup moins enthousiaste de ses 8 ans passés à la Maison-Blanche. C'est vrai que c'est très important d'Emmanuel Macron. Alors, bien sûr, son autorité, son pouvoir, son influence diminuent dans ce sablier du second mandat de jour en jour, mais pour lui, c'est absolument fondamental de pouvoir avoir un héritage, il n'a pas d'héritier, il le dit, on ne peut pas dire qu'il traite de manière formidable son nouveau Premier ministre, hein, prenant la parole quelques minutes avant la déclaration de politique générale pour parler du poulet ukrainien depuis la Suède.
Comme disait même François Mitterrand, on ne se refait pas.
On ne se refait pas, mais effectivement, la question de la trace qu'il va laisser, la question de son héritier ou de la personne qui lui succédera à l'Élysée, est un sujet pour lui, même s'il n'est plus acteur actif là-dessus.
Jean-Claude Casanova.
Oui, mais c'est l'absence de structure politique de la France et l'élimination du Parti Républicain et du Parti Socialiste, c'est ce qu'a réussi d'une certaine façon Macron, découle aussi de la faiblesse de ces deux formations. Si on les regarde depuis 25 ans, ils n'ont pas géré au mieux la France.
Non seulement ils n'ont pas géré au mieux la France, mais ils ne se sont pas gérés eux-mêmes au mieux. Parce que, par exemple, les Frondeurs, c'est une entreprise de démolition
depuis le
quinquennat de Hollande dès le départ.
Chirac-Raffarin, la non-conscience de la baisse de la perte de compétitivité de la France est une erreur dramatique. La non-conscience du problème de l'immigration est une erreur politique dramatique.
Frédéric, juste un mot de conclusion.
Non, conclusion, nous avons beaucoup parlé
provisoire
de ce scrutin présidentiel, bien sûr, avec cette enquête.
On va se tourner maintenant vers les européennes.
Voilà, les européennes vont être un scrutin important et peut-être que les invariants traditionnels d'une élection européenne vont être bousculés. On s'attend à une abstention forte, peut-être que les Français vont plus voter. Seul scrutin national du quinquennat. Seul scrutin national du quinquennat, ça veut dire qu'il aura peut-être un effet sur le scrutin 2027, alors que traditionnellement, les européennes, c'est un singleton, c'est un scrutin à part. Et puis, on parle des européennes comme un vote de marque partisane et d'étiquette. Là, il y a beaucoup de sortants et des personnalités qui incarnent avec une inconnue, qui va être tête de liste pour la majorité présidentielle. Il y a toujours, c'est la seule inconnue qui reste pour ce scrutin du 9 juin prochain.
Merci en tout cas à Frédéric Dabi, donc directeur général opinion de l'IFOP. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Et puis nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.